Chère auditrice, cher auditeur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'une maladie souvent grave, l'anorexie mentale, et vous raconter comment je suis intervenu auprès de Marie, une jeune patiente anorexique que j'ai reçue il y a maintenant de nombreuses années. Dans un deuxième temps, je répondrai comme d'habitude aux questions que m'ont posées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce podcast sur l'anorexie. Je vous rappelle que chacun de nos épisodes est disponible à l'avance en podcast pour que vous puissiez l'écouter et me faire parvenir vos réactions.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Qu'est-ce que l'anorexie mentale? Le mot anorexie est composé de la lettre A privative et de orexis qui veut dire appétit. Littéralement, anorexie signifie donc perte d'appétit. Mais en vérité, anorexie est un terme inapproprié, car comme nous le verrons, la jeune anorexique ne perd pas l'appétit. Ce n'est pas l'appétit son problème. Le problème de l'anorexique, c'est son obsession, sa préoccupation excessive et obsédante de mincir, parfois jusqu'en mourir, en mourir d'inanition. Cette maladie mentale, qui touche essentiellement des jeunes filles adolescentes, âgées de 12 à 20 ans, des filles souvent très brillantes et vives d'esprit, cette maladie se déclenche fréquemment à la suite d'une épreuve angoissante que l'adolescente doit affronter, comme par exemple le concours difficile à une grande école, un séjour seul à l'étranger, une rupture sentimentale douloureuse, la mort brutale d'un proche, le divorce orageux des parents, tous des traumatismes chez une adolescente qui était déjà émotionnellement fragile, repliée sur elle-même et en conflit avec une mère trop envahissante. Quelquefois, l'anorexie apparaît à la suite d'un régime amaigrissant, entamé sous la pression de la mère qui, soucieuse des rondeurs de sa fille, n'a cessé de lui reprocher ce qu'il a en trop. La future anorexique commence alors son régime, recentre sa vie sur la question du poids et ne parvient plus à s'arrêter de maigrir. Globalement, l'anorexie se caractérise par 4 symptômes majeurs. S'interdire de manger, premier symptôme, maigrir sans cesse, ne plus avoir ses règles durant au moins 3 mois, et enfin, 4e symptôme qui apparaît lorsque la maladie s'aggrave, l'anorexique succombe à des crises de boulimie. Elle souffre maintenant d'accès compulsif et répétitif dans lesquels elle avale avidement une quantité excessive de nourriture et se fait vomir aussitôt. Nous avons donc des personnes anorexiques qui s'en tiennent au régime strict qu'elles se sont imposées et des personnes anorexiques boulimiques qui rompent régulièrement leur régime, environ une fois par semaine, avec des crises de frénésie alimentaire. Si nous reprenons chacun de ces 4 symptômes majeurs, le plus important est celui de s'interdire de manger. Privation qui conduit inévitablement à un amaigrissement pathologique. Comme je vous l'ai dit, l'anorexique n'a pas perdu l'appétit. Elle a souvent faim et risque à chaque instant de céder à la tentation de manger. Sa hantise de grossir l'amène alors à suivre des régimes très sévères. ou à supprimer des repas, ou à élaborer des stratégies compliquées pour se restreindre en quantité de nourriture et en calories, ou encore à utiliser de nombreux laxatifs et diurétiques, ou même à pratiquer une hyperactivité sportive menée avec la volonté cruelle d'asservir son corps et de brûler toutes ses calories. Elle est impitoyable avec son corps. L'autre arme dans son combat pour mincir est de se faire vomir. Que ce soit, comme nous l'avons évoqué, après un accès incontrôlé des boulimies, ou plus fréquemment après un repas convivial en famille ou au restaurant. Je pense à cette jeune patiente qui adorait aller au restaurant et qui vivait chaque repas comme un écart regrettable au régime draconien qu'elle s'était imposé. Tout de suite après son dessert préféré, l'immanquable gâteau au chocolat, elle s'excusait de quitter la table, se rendait aux toilettes, se mettait à genoux au bord de la cuvette, avançait la tête, introduisait ses doigts au fond de la gorge et vomissait tout son repas jusqu'à ressentir le vide en elle. Quant au deuxième symptôme, l'amaigrissement incessant, il est le signe le plus visible de la maladie. À coup sûr, lorsque nous croisons dans la rue une jeune femme d'une maigreur extrême, nous lui disons tous qu'elle est probablement anorexique. Parfois, l'amaigrissement atteint la limite viable du corps et l'hospitalisation devient alors nécessaire. Concernant l'arrêt des règles, troisième symptôme, nous savons qu'il peut être dû à la dénutrition. Le circuit neuro-hormonal entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires est perturbé et l'ovulation ne se produit pas. Mais l'arrêt des règles peut aussi s'expliquer du point de vue psychanalytique. Cette interruption de règles serait provoquée par le refus inconscient de l'anorexique d'avoir un corps capable de procréer, d'avoir un corps de mère. Elle ne veut pas être une mère comme sa mère, ni avoir un corps de mère. Nous verrons tout de suite avec le cas de Marie que la souffrance profonde des adolescentes anorexiques vient de leur refus de devenir femme et mère, refus dont elles n'ont pas pleinement conscience. Ainsi, je dirais que la peur d'être femme et mère a été plus forte que la poussée pubertaire de l'ovulation, que la peur a été plus forte que la poussée de la nature. Comme si l'inconscient pathologique de l'anorexique, car il y a une inconscient pathologique et il y a un inconscient bénéfique. Eh bien ici, comme si l'inconscient pathologique de l'anorexique était un inconscient perfide qui l'installait plus encore dans sa maladie. En supprimant ses règles, son inconscient perfide la conforte dans le refus d'être mère. Voilà un exemple éloquent du pouvoir inhibiteur de l'inconscient sur le corps et au-delà, sur le destin d'une jeune femme anorexique. Mais attention, ne généralisons pas trop vite. La stérilité chez l'anorexique n'est pas une fatalité. J'ai reçu plusieurs de ces patientes qui ont mené à terme une grossesse vers la fin de leur cure. Mais avant de vous parler du traitement de l'anorexie et de mon travail avec Marie, je voudrais mieux vous préciser pourquoi on qualifie l'anorexie de mentale. L'anorexie est mentale parce qu'elle comporte trois dysfonctionnements psychologiques. Un dysfonctionnement émotionnel, qui est celui de la peur inconsciente d'être femme, peur dont nous venons de parler. Un dysfonctionnement de la pensée, qui est celui de l'obsession envahissante d'être toujours plus mince. Et un dysfonctionnement de la perception de son corps. Je devrais dire de la double perception du corps. Une perception déformée de l'image du corps dans le miroir et une seconde perception, une perception tout aussi déformée des sensations musculaires et des sensations internes du corps, en particulier la sensation d'avoir le ventre plein comme une outre ou d'avoir le ventre creux. Le moment est venu de vous présenter Marie. Et en vous parlant d'elle, vous montrer comment j'aborde le traitement de l'anorexie. Marie est une jeune étudiante, âgée de 21 ans, excellente élève d'une grande école de commerce, venue me consulter après plusieurs hospitalisations pour une anorexie grave. Dès le premier entretien, j'ai compris que notre patiente, au regard vif, mais au corps décharné et asexué dans ses formes, bien que sensuelle dans son allure. J'ai souvent constaté, tout comme de nombreux collègues, qu'il existe chez les jeunes filles anorexiques un contraste étonnant entre leur maigreur effrayante et le charme féminin qu'elles dégagent. Mis à part cette remarque, je vous disais que j'avais compris dès le premier entretien que Marie souffrait de la plus sévère des anorexies, celle qui peut nécessiter une hospitalisation. Marie faisait partie de ces jeunes femmes très atteintes qui ont la conviction délirante de se voir et de se sentir obèses. Je dis « délirante » parce qu'elles ont la certitude absolue, c'est ça le délire, que ce qu'elles voient et ce qu'elles ressentent est absolument vrai, alors que nous savons tous que c'est faux. Quel que soit leur poids, fût-il le plus infime, ces patientes sont grasses et rondes dans leur tête, mais squelettiques dans la réalité. Obnubilée par son obésité supposée, par son obésité hallucinée, Marie s'obstine depuis sa puberté à gommer ses moindres courbes féminines et à affiner son corps jusqu'à le vouloir plat, immatériel, vidé de sa substance. Je me souviens d'une séance où Marie se plaignait de ses rondeurs insupportables alors qu'elle venait d'approcher la limite dangereuse des 39 kilos. Sachant que l'un des objectifs que je m'étais assigné dans le traitement de Marie était de la faire douter de ses certitudes, je lui demande de m'accompagner dans le hall d'entrée de mon cabinet. Je revois très bien cette scène qui s'est passée il y a quelques années déjà. Nous étions debout, l'un à côté de l'autre devant l'immense glace du hall et je lui demande alors de me dire où elle se trouve grosse. Tout naturellement, sans la moindre hésitation, Marie pince entre ses doigts à travers l'étoffe du pantalon les quelques muscles atrophiés de sa cuisse et en se regardant dans la glace, elle me dit comme si je ne comprenais rien. « Vous voyez, docteur ?» Il faut gommer tout ça. » Et moi, surpris, de lui répliquer « Mais ce sont vos muscles. » Mais non, rétorque-t-elle, ce ne sont pas mes muscles, c'est de la graisse, de bourrelets de graisse que je n'arrive pas à faire disparaître. En l'écoutant, je me disais, comment est-ce possible? Comment peut-elle nier à ces points la réalité de son corps cadavérique? Voilà le parfait exemple, pensais-je, de ce qu'est une perception délirante du corps. Je veux dire une double perception, une perception visuelle et une perception tactile du corps. Visuelle parce qu'elle se voit grosse, tactile parce qu'elle touche la graisse. En réponse à ces mots, je n'ai pas contredit la patiente, mais je l'ai plutôt rassurée. D'accord, Marie, je comprends. Je vous propose, d'ici quelques séances, que nous revenions devant le miroir et regardions ensemble si les bourrelets ont disparu.
France Inter, l'inconscient, avec le docteur Nazio.
Avec cette scène du miroir, j'ai voulu vous montrer, vous, auditeurs, comment je traite un des trois dysfonctionnements mentaux chez l'anorexique. Celui de la double perception délirante de son corps. Comme je vous ai dit, perception visuelle et perception tactile. Maintenant, je voudrais reprendre une séance ultérieure avec Marie où vous me verrez corriger un autre dysfonctionnement mental, celui de son refus de la féminité. Refus dont je vous ai déjà parlé à propos de l'arrêt des règles. Marie est habitée par une obsession insatiable. Maigrir, maigrir et maigrir jusqu'à obtenir un corps plat, sans la moindre rondeur féminine. Un jour, lors d'une séance, il m'est venu l'idée de lui demander de dessiner le corps qu'elle aimerait avoir. J'ai donc pris le petit tabouret qui me sert souvent des tables basses et en lui donnant une feuille et un crayon, je lui ai proposé de dessiner son corps idéal, de le dessiner de pied et de profil. En voyant son dessin, je fus surpris de découvrir qu'elle esquissait seulement une tête d'où descendaient jusqu'au sol deux lignes parallèles. Je lui fais remarquer que je ne voyais pas de hanches, ni des seins, ni des fesses. « C'est vrai, me dit-elle, vous avez raison, mais c'est comme ça que je voudrais être. » Et moi de répliquer, « Mais c'est le corps d'un garçon. »« Oui, c'est plutôt ça, ajoute-t-elle, le corps d'un garçon. » Et moi d'insister, « Et vous, vous seriez ce garçon ?»« Je ne sais pas. » C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être le garçon que mon père aurait aimé avoir et qu'il n'a pas eu. Oui, j'aurais aimé être le fils unique de mon père. D'ailleurs, quand mon père travaillait au champ, vous savez, j'étais la seule à venir l'aider pour la moisson. Je l'accompagnais aussi à la chasse tous les dimanches. On adorait être ensemble. En entendant ces mots, j'ai pensé que Marie confirmait l'idée que je m'étais forgée au fur et à mesure de mon travail avec les anorexiques, l'idée que le refus de la féminité chez ces jeunes filles se doublait du désir d'être un garçon androgyne, complice du père. Un mot encore à propos du dessin que j'ai demandé à Marie. Je vous précise que ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement le dessin en lui-même, c'était de réussir à mettre en place entre nous un dispositif simple que nous avons pu reprendre plusieurs fois au cours de la cure et qui nous a permis d'évaluer ensemble l'évolution de l'image qu'elle se faisait de son corps. Dans les dessins suivants, j'étais surtout attentif à la manière dont elle arrivait à tracer les formes féminines qui manquaient sur le premier dessin. Une autre manifestation de souffrance chez Marie que j'ai dû traiter était ses accès compulsifs de boulimie qui se terminaient par des vomissements volontaires et répétitifs, occasionnant des carences hautement préjudiciables à la santé. Quand on vomit non seulement les aliments qu'on vient d'ingérer, on vomit aussi les sucres nutritifs, les minéraux et beaucoup d'autres éléments indispensables à notre santé qui sont déjà présents dans le tube digestif. Mais il faut savoir surtout que la sensation libératrice des manques et de vide dans l'estomac que les vomissements produisent est vécue par l'anorexique comme une véritable drogue qui la rend dépendante. Après avoir vomi, elle jubile en éprouvant cette sensation de légèreté intérieure et le sentiment de triompher de son corps charnel. « Quand j'ai vomi, me dit-elle, je ne me sens plus coupable d'avoir mangé. Je me sens libre comme jamais. » Quel contraste avec l'expérience du miroir où la jeune anorexique nous avait confié « J'en peux plus. Je me vois grosse, je me sens lourde et l'angoisse m'étouffe. » À propos de l'addiction au vomissement, je dois vous dire que je ne m'interdis pas, en tant qu'analyste, de jouer un rôle directif pour aider ma patiente anorexique à se sevrer de son addiction. En effet, si l'anorexique me confie qu'elle se fait vomir 3 fois par semaine, par exemple, je ne lui demande pas de tout arrêter. Je lui demande de se restreindre et ne le faire qu'une seule fois par semaine. En pensant à Marie, je vous avoue que j'ai souvent été étonné par la facilité avec laquelle elle acceptait le sevrage que je lui proposais. J'ajoute que chaque fois que j'adoptais une attitude directive, je ne manquais pas de lui préciser qu'en cas d'impossibilité pour elle de respecter notre accord, je serais toujours compréhensif. Enfin, le dernier dysfonctionnement mental chez l'anorexique que nous devons traiter, c'est son obsession de mincir indéfiniment. Ce qui m'importe, ce n'est pas le contenu de l'obsession. Ici, le contenu de l'obsession, c'est la minceur. Non, ce n'est pas le contenu, mais l'obsession en elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que la tête du patient soit entièrement occupée par l'enchaînement ininterrompu des pensées inutiles. C'est ça l'obsession. Or, nous savons que derrière les obsessions bouillonne toujours l'agressivité. Pour traiter les obsessions du patient anorexique, il faut donc traiter son agressivité. Diminuons son agressivité et nous diminuerons automatiquement ses pensées obsédantes sur son poids. D'accord, mais comment diminuer l'agressivité? Ou ce qui revient au même. Comment une anorexique peut-elle sublimer ses impulsions agressives et du coup affaiblir ses obsessions? Je pense surtout à la hargne contre soi-même, si présente dans le fait de s'interdire de manger, de contrôler sans cesse son poids, ou encore de s'efforcer à aller au-delà de ses limites physiques. S'interdire, contrôler ou pousser son corps à bout sont toutes des manifestations d'une agressivité, de l'agressivité contre soi-même. Comment alors sublimer l'auto-agressivité de l'anorexique? Nous avons 2 moyens. D'abord, l'éveil de la curiosité et ensuite le désir de créer. Rendons l'anorexie curieuse et rendons-la créatrice et nous aurons réduit son agressivité et stoppé l'emballement de sa pensée obsédante. Une autre remarque à propos du traitement du patient anorexique. Je n'hésite pas à lui prescrire un antidépresseur, non pas pour soigner une dépression, mais pour réduire le surrégime de la pensée obsessionnelle. L'antidépresseur est pour moi un excellent collaborateur pour m'aider à rendre les patients moins rigides, moins perfectionnistes et moins compulsifs. Si le psychanalyste n'est pas médecin, je lui conseillerais de travailler en équipe avec un collègue psychiatre prescripteur. Ma dernière remarque concerne l'attitude du thérapeute vis-à-vis des variations du poids de la patiente. Je pars du principe suivant. Si l'anorexique pense que je suis là pour qu'elle grossisse, elle me rejettera. Si par contre, je lui dis, quitte à la surprendre, que je ne voudrais pas qu'elle monte au-dessus d'un certain seuil, 48 kilos pour Marie par exemple, je deviendrai son allié et elle m'accordera sa confiance. Cependant, la parole importante à lui dire est de lui préciser que je ne suis pas là pour qu'elle grossisse. L'analyste ne doit pas être vécu par sa patiente anorexique comme une mère angoissée qui attend qu'elle prenne du poids. Je suis là pour m'occuper surtout de ses obsessions pénibles. Je suis là pour l'aider à ne pas avoir la tête tout le temps occupée par la nourriture, occupée par les calories et occupée par les calculs stratégiques destinés à ne pas grossir. Un mot sur l'issue de la cure de Marie, cure qui a duré 2 ans. Lorsque Marie est partie, son état physique et psychique s'était nettement amélioré, bien que elle gardait toujours le souci de sa minceur. Quand plus tard elle m'a donné de ses nouvelles, j'appris qu'elle était toujours célibataire, mais très occupée par son travail de haut responsable d'un département d'import-export d'une grande entreprise. Maintenant, je voudrais clore ce récit en soulevant une question. Pourquoi sommes-nous tous si curieux de connaître la souffrance de l'anorexique? Je réponds, parce que nous sentons qu'elle vit douloureusement avec son corps ce que nous vivons plus ou moins sereinement avec le nôtre. Vous savez, entre le normal et le pathologique, la frontière est infime et souvent la maladie nous éclaire sur notre normalité. Tout comme l'anorexique, nous avons une double perception de notre corps. Nous le ressentons et nous le voyons. Nous ressentons nos sensations et nous voyons notre image. Marie, notre patiente, hallucine de se sentir lourde et de se voir grosse, alors qu'elle est éthérée et filiforme. Nous n'hallucinons pas, mais nous déformons toujours le ressenti et la vision de notre corps. Nous ne ressentons jamais et nous ne voyons jamais notre corps tel qu'il est, mais tel que nous voudrions qu'il soit. Et pourquoi cette distorsion? Parce que nous aimons notre corps, ou l'haïssons. Parce qu'il vibre comme il vivrait lorsque nous étions enfants. Et parce que notre corps garde en mémoire toutes les caresses de ceux qui nous ont aimés. et toutes les offenses de ceux qui nous ont blessés. Nos sentiments, notre histoire et tous ceux qui ont compté pour nous faussent la perception de notre corps tel qu'il est. En un mot, et ce sera ma conclusion, là où l'anorexique hallucine son corps, nous l'embellissons si nous l'aimons, ou nous l'enlaidissons si nous ne l'aimons pas.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Mais ne partez pas. Après la musique, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées à la suite de l'écoute de nos podcasts. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me laisser vos questions et remarques soit sur la page de notre site L'Inconscient sur franceinter.fr ou bien sur le répondeur du 01 56 40 64 04.
Sometimes you look the same, just like you did before the accident. When you're staring into space, it's hard to believe you don't remember it. Woke up in the ambulance, you pieced it all together on the drive. And I know you don't. If it happened to you on a different day, on a bridge where there wasn't a rail in the way, or a neighborhood street where the little kids play, or the Angeles crest in the snow or the rain, what if you weren't alone, there were kids in the car, what if you were a mom, no one knows where you are, if you changed anything, would you not have survived? You're alive, you're alive, you're alive.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, docteur Nasio. Que pensez-vous du caractère de purification, de volonté de santé, de rigueur de vie, d'ascétisme dans le comportement de l'anorexique? Merci.
Tout ce que vous décrivez, purification, rigueur de vie, santé et même ascétisme, effectivement, tout cela fait partie du monde de l'anorexique. Tout en elle cherche à obtenir ce qui est propre, ce qui est limpide, net, immaculé, c'est-à-dire sans tache. J'ai même des patientes qui se font faire une hydrothérapie. Ça veut dire que non seulement elles sont anorexiques, mais de temps en temps, elles vont chez un technicien qui, pour moi, pose des problèmes pour lui faire un lavage de tout l'appareil digestif. Elle veut que dans son corps, à l'intérieur de son corps, il n'y ait rien de sale. Et puis, l'autre tendance de l'anorexique, c'est le contrôle. C'est quelqu'un qui veut que tout soit sans faille. Il y a un aspect maniaque. Ils sont des personnes qui sont très soucieuses de l'ordre. Donc, si vous voulez, vous en avez deux aspects. Il y a la recherche de la pureté d'un corps immatériel, sans chair et sans déchets, et en même temps la recherche de la maîtrise, ce qui est, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une manifestation de l'agressivité. Elle veut dompter son corps, elle veut le soumettre. Dans un cas, l'ennemi de l'anorexique, c'est la saleté, la souillure, et dans l'autre cas, l'ennemi de l'anorexique, c'est le désordre, ce qui échappe au contrôle.
Bonjour docteur Nasio et merci pour ce podcast sur l'anorexie qui me touche tout particulièrement, mais en tant qu'homme, car je suis moi-même atteint d'anorexie depuis une dizaine d'années. J'ai près de 40 ans, donc elle s'est manifestée très tardivement, après un gros changement qui a été, je crois, en fait, celui de quitter le domicile familial, qui est extrêmement dur pour moi, qui a entraîné beaucoup de bouleversements et une très forte culpabilité. Mais je voulais revenir sur le fait que, eh bien, que je suis un homme et que la plupart des propos que vous évoquez concerne surtout les femmes et surtout les jeunes femmes. Et je souhaitais connaître votre avis sur l'anorexie masculine. Merci, docteur.
Merci, Thibaut, de votre témoignage et de votre question. Comme je vous l'ai dit dans mon récit, l'anorexie est une affection essentiellement féminine qui touche les jeunes filles entre 12 et 20 ans, parfois des femmes plus âgé, mais globalement, c'est entre 12 et 20 ans. Alors, effectivement, il peut y avoir, c'est rare, des anorexies masculines, comme c'est votre cas, Thibaut. Probablement, vous ne m'avez pas parlé, vous souffrez de trois symptômes majeurs de l'anorexie, qui sont, rappelez-vous, s'interdire de manger, être obsédé par le poids, et dans certains cas, succomber à des accès de boulimie suivis de vomissements provoqués. Vous ne m'avez pas parlé de ces symptômes, mais probablement vous en souffrez. Ou vous souffrez d'un autre problème dont vous n'avez pas parlé, qui est du rejet de la masculinité. Comme la femme anorexique souffre du rejet de la féminité. Mais en tout cas, ce que je retiens de votre histoire, c'est qu'en dehors de votre possible anorexie, vous avez beaucoup souffert dans votre vie, en particulier lorsque vous avez quitté le domicile familial. Vous vous êtes senti trop seul et désemparé jusqu'à aujourd'hui où vous me posez cette question. Si vous me le permettez, je vous conseillerais de consulter un professionnel si vous ne l'avez pas fait encore.
Bonjour docteur, je voulais d'abord vous remercier pour la générosité avec laquelle vous partagez votre expérience et votre savoir. Je voudrais revenir sur le cas de Marie, la jeune anorexique, et plus largement sur les personnes qui souffrent de pensées obsessionnelles. Vous expliquez que ces pensées servent à lutter contre l'agressivité interne du sujet. Mais pouvez-vous nous dire comment se forme cette agressivité ? Merci.
Je vois, Marie-Chloé, que vous avez très bien compris ce que moi-même, je l'avoue, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'ai pu recevoir en consultation des centaines, pour ne pas dire des milliers, de patients obsessionnels qui, d'un côté, je dis passion obsessionnelle, pas de l'anorexique, des milliers de patients obsessionnels qui, d'un côté, souffraient d'une hyperactivité de la pensée et du doute, la maladie du doute, typiquement de l'obsession. Et de l'autre côté, ces mêmes patients souffraient des accès de colère, des comportements agressifs incontrôlables et souvent d'une tendance à tout contrôler. D'un côté, ils ont la souffrance d'avoir une pensée qui envahit la tête et de l'autre, ils ont une souffrance d'avoir une agressivité qui rend difficile la vie avec ses proches. Eh bien, en ayant ces patients obsessionnels, je me suis aperçu que l'hypertrophie de la pensée chez eux était une défense contre l'hypertrophie de l'agressivité. Comme s'ils avaient dit en pensant à Descartes, « Je pense, donc je suis », et au lieu de dire « Je pense, donc je suis », ils auraient dit « Je pense trop pour ne pas faire mal à l'autre ». Voilà comment ils auraient dit les obsessionnels. Alors, je vous décris ici le fonctionnement d'une personne obsessionnelle. Mais le fonctionnement chez l'anorexique est tout aussi observable et semblable à celui-là. Chez elle, la tête est complètement envahie par une pensée, oui, mais l'objet de la pensée, c'est la nourriture et le poids. Et concernant l'agressivité, elle aussi souffre d'agressivité, mais l'objet de son agressivité, c'est son propre corps qu'elle maltraite. Alors vous me posez la question, c'est d'où vient l'agressivité? Alors c'est très difficile de savoir d'où vient l'agressivité. Je vous donne une hypothèse. C'est l'hypothèse de la psychanalyse. Elle est très intéressante. L'idée, c'est que dans l'enfance ou dans l'adolescence, l'enfant ou l'adolescent futur obsessionnel, futur anorexique, l'enfant ou l'adolescent va être soit victime, soit témoin, ou soit bourreau, je dirais, acteur, soit victime, témoin ou acteur, d'une situation d'agressivité. Par exemple, un enfant qui voit ses parents se disputer, et parfois se disputer fortement avec des gestes physiques, d'une agressivité physique, eh bien, cet enfant va développer en lui une agressivité. C'est-à-dire, il verra en lui comme une excitation de sa pulsion agressive. Donc l'agressivité se développe surtout chez les enfants et les adolescents qui ont été, par exemple, témoins des situations d'agressivité ou que quelqu'un a été agressif avec lui. Un exemple, un homme, un patient adulte qui a des manifestations d'agressivité me raconte que son frère est né. Lorsqu'ils étaient enfants, il était très dur avec lui, très maltraitant, particulièrement sadique. Eh bien, cet homme, aujourd'hui adulte, va avoir des manifestations d'agressivité. Et dans le même esprit, voilà-t-il que je me disais toujours, oui, cet homme est agressif parce qu'il a été agressé, maltraité par son frère aîné, par exemple. Et puis un jour, j'ai une patiente, il me dit, voilà, je ne supporte plus, je me sens coupable tout le temps parce que parfois je réagis de manière très colérique et je suis agressive. Et je dis, mais pourquoi, étant enfant, vous avez été agressé? Non, rien, aucun problème. On va l'appeler Émilie. Mais Émilie, est-ce que vous avez été témoin de disputes avec vos parents? Non, non plus. Mais alors, est-ce qu'il y a eu des souvenirs où vous sentez, où vous vous rappelez qu'il y a eu des situations d'agressivité? Ah oui, avec mon frère. Mais vous n'avez pas de frère aîné? Ah non, avec mon petit frère. Et alors, c'est-à-dire, pourquoi vous me parlez d'agressivité? Ah, parce que j'ai passé mon temps à écraser la tête et à lui mettre les pieds sur la tête. Et j'adorais le taper dessus. Ah, d'accord. Et ces jours-là, chères auditrices et chers auditeurs, je me suis aperçu que l'agressivité pouvait être aussi l'expression aujourd'hui d'une agressivité d'hier où l'enfant, à l'époque, était particulièrement l'acteur, le bourreau de l'agressivité. Donc il y en a trois situations. Être agressé, être témoin de l'agressivité ou être bourreau d'une agressivité. Là, vous avez les trois situations qui vont, c'est pas toujours systématique, mais qui vont souvent faire en sorte que l'homme adulte qu'il va devenir sera obsessionnel et agressif.
France Inter, l'inconscient, avec le docteur Nasio.
Bonjour et merci de partager vos expériences. Concernant l'épisode sur l'anorexie, j'ai cru comprendre que la relation mère-fille était assez capitale dans la mise en œuvre de ce schéma. Je souhaitais savoir comment vous vous placiez en tant que psychanalyste afin de ne pas être perçu par la personne qui vient vous consulter, donc l'anorexique, comme un tiers invasif et qui va perturber cette relation. Merci.
Merci Bastien de votre remarque. Vous savez, beaucoup de mes patients sont en couple. Et pour moi, mon intervention, c'est d'une délicatesse absolue. Je n'oublie jamais que mon patient est en couple. J'y tiens pour une raison simple, c'est que si mon patient est aujourd'hui engagé dans une relation, c'est parce qu'il a décidé de faire ce choix. Même si ce choix peut s'avérer erroné, en tout cas c'est son choix. Ça fait partie de lui. Je n'ai jamais dit à un de mes patients « séparez-vous ». Si demain il devra se séparer, eh bien c'est à lui de prendre cette décision. Concernant l'anorexie et la relation avec sa maman, je ne m'oppose pas non plus, même si je trouve que cette relation de la jeune anorexique avec sa maman est une relation fusionnelle, je n'interviens pas intentionnellement pour séparer la fille de sa mère, non. Je sais que un des traitements pour des anorexies graves, c'est de séparer la jeune fille de sa famille. Ça, c'est autre chose. C'est nécessaire. Beaucoup d'établissements le proposent lorsqu'ils hospitalisent une jeune fille, mais c'est une mesure nécessaire. Ce n'est pas la même chose lorsque je travaille en analyse avec une jeune patiente anorexique, que je sais qu'elle a une relation très forte avec sa maman, même passionnée. Je respecte. Je ne fais rien pour aller la couper, cette relation. Je laisse qu'elle se dénoue naturellement.
Docteur Nasio, bonsoir, je m'appelle Aziz. Tout d'abord, je tenais à vous dire le plaisir que j'ai eu à découvrir votre podcast, qui est une formidable occasion de redécouvrir la psychanalyse dans cette période de notre histoire où l'on tend à réduire le sujet à une machine que l'on pourrait entièrement expliquer par le cerveau. Ma question concerne l'histoire de Marie. On dit que l'anorexie chez la jeune femme trouve son explication dans un refus face à un trop-plein d'amour maternel. Et je souhaiterais connaître votre position à ce sujet, car je n'ai pas entendu dans le cas que vous aviez évoqué un excès de présence maternelle, mis à part du côté d'une inquiétude face au refus de manger. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci Aziz pour votre question. Avant tout, je voudrais vous dire que votre commentaire sur la psychanalyse et le cerveau, c'est juste, mais ça me permet de vous dire à vous et de dire aux auditeurs que tout ce que nous apprenons sur le fonctionnement du cerveau est totalement complémentaire du travail que nous, les analystes, nous faisons. Et je dois vous dire aussi que beaucoup de découvertes en neurosciences viennent confirmer des hypothèses et des conjectures faites par la psychanalyse depuis de longues années. Je lis beaucoup la neuroscience et je suis toujours très heureux de constater combien il y a une communauté d'approches pour faire avancer la science de l'homme. Cela étant, j'aimerais dire aussi que, oui, la présence de la mère est fondamentale pour fomenter, je veux dire, c'est un facteur qui fomente l'apparition de l'anorexie au début, mais ce n'est pas le seul facteur qui est à l'origine de l'anorexie. Il faut aussi, comme je vous ai fait l'hypothèse, il y a aussi le rôle du père qui peut être un rôle effacé, où l'anorexique va à refuser sa féminité pour se, je dirais, devenir le garçon que dans son fantasme, elle imagine que son père aurait aimé avoir.
Bonjour, je m'appelle Christine. Merci pour ce développement extraordinaire sur la perception de son corps par l'anorexique, Monsieur Nazio. Que peut-on dire à une maman qui a une jeune fille anorexique, qui est déjà suivie par une psychologue, mais qui cherche un spécialiste de l'anorexie pour faire suivre sa fille sur ce symptôme, car la psychologue qui la suit n'aborde apparemment pas ses problèmes d'anorexie avec sa fille. D'après vous, faut-il être un spécialiste de l'anorexie pour suivre une anorexique ? Merci pour votre réponse.
Merci à vous pour votre question. La première réponse que je donne, non, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'anorexie pour suivre une jeune anorexique. Cependant, il y a de nombreuses équipes pour pouvoir suivre de façon spécialisée une jeune anorexique. Je pense en particulier à l'Institut Montsouris à Paris 14e. Vous avez aussi la maison de Solène à Port-Royal, Paris 14e aussi. Et puis vous avez un établissement qui est très intéressant où il y a des très bons professionnels qui peuvent s'occuper d'une anorexique, c'est le ASM13. ASM13, c'est un établissement qu'il y a un service pour les anorexiques qui est excellent. Voilà les références que je pourrais vous donner. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions. Je voudrais remercier Josepha Lebrun pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Antoine Espel à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir nos prochains épisodes en podcast. Si vous écoutez ces podcasts et s'ils vous inspirent, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.